Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accord DIAC, voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC.
Église d'aujourd'hui, une émission de Régis Burnet.
Bonsoir et merci de nous retrouver pour Église d'aujourd'hui, votre moment de réflexion du dimanche. Nous fêtons aujourd'hui la grande fête de Pâques, la fête la plus importante du christianisme, la fête de la résurrection. Je vous souhaite donc à tous et à toutes de très joyeuses Pâques. Et ce soir, de quoi parler d'autre que justement de Pâques, comme nous le faisons depuis trois semaines avec Denis Moreau. Bonsoir Denis Moreau.
Bonsoir et joyeuse Pâques.
Joyeuse Pâques à tous. Vous êtes professeur de philosophie à l'Université de Nantes et vous venez de faire paraître Résurrection au pluriel, traverser les nuits de nos vies aux éditions du Seuil. Alors, nous avons parcouru votre livre et maintenant nous pouvons revenir à son début, qui est une partie théorique, plus philosophique, qui parle justement du contenu de la fête de Pâques. Alors, peut-être pour nos auditeurs qui ne sont pas forcément familiers avec le calendrier liturgique des chrétiens, la manière dont les chrétiens investissent l'année dans leurs différentes fêtes, qu'est-ce que c'est que le contenu de la fête de Pâques ?
Alors, c'est pas très compliqué. Bon, d'abord, c'est une fête mobile, à la différence de Noël, hein, parce que c'est calculé en fonction de la Lune, donc ça étonne un peu les gens, mais c'est pas toujours à la même date chaque année. C'est la fête, alors vous l'avez rappelé, c'est contrairement à ce qu'on dit, croit souvent, c'est la plus grande fête chrétienne, c'est-à-dire la plus grande fête chrétienne, ça n'est pas Noël. Hein. Noël, c'est la fête de la naissance de Jésus, mais en fait, naître, c'est quand même assez banal, ça nous est par définition... arrivé à tous, oui. Alors que la fête de Pâques, donc on peut le dire en deux mots, c'est la fête de la résurrection de Jésus, donc si ça s'explique, alors est-ce que c'est vrai ou pas, c'est un autre problème, hein. Oui. Mais si on veut parler des contenus, ça s'explique en quelques mots. Jésus, à la fin de sa vie, monte à Jérusalem, il a des plus hautes autorités en place, il est arrêté, il est victime d'un procès expéditif et joué d'avance, on le crucifie le vendredi, et le dimanche matin, on met son corps au tombeau, et le dimanche matin, ses disciples retrouvent le tombeau vide et commence une série d'apparitions de Jésus ressuscité à ses disciples. Donc la fête de Pâques, c'est la fête de la victoire de la vie sur la mort. Voilà, je pense.
Alors, justement, est-ce que c'est une définition suffisante de ce que c'est que la résurrection? Faisons maintenant le cours théorique. Qu'est-ce que c'est que la résurrection?
C'est compliqué, hein. C'est oui. Compliqué. L'essentiel, je viens de vous le dire en quelques mots, la mort n'a pas le dernier mot. Et la vie continue après, et sous une forme supérieure ou préférable à celle de cette vie terrestre. Donc on peut dire que c'est ça le contenu. Et après, alors évidemment, il y a plein de questions qui se posent. La première qu'on va peut-être pas traiter ici, mais qu'il faut évidemment pas négliger, c'est est-ce que c'est vrai cette histoire ?
Oui.
Il y a quand même un certain nombre de bonnes raisons de penser que ce n'est pas vrai.
Oui.
D'abord parce que c'est quand même tout à fait extraordinaire et sans équivalent dans l'histoire de l'humanité. Et puis il y a dès les débuts du christianisme, il y a des gens qui ont dit non mais c'est pas possible. Alors ou bien le tombeau n'était pas vide, ils se sont trompés de tombeau, ou bien Jésus n'était pas mort, il était juste blessé, évanoui en croix. Donc il y a des tas d'arguments contre la résurrection. Face à ça, il y a un certain nombre d'arguments en faveur de la résurrection. Alors on peut dire par exemple. Si effectivement les disciples se sont trompés de tombeau, quand cette histoire de résurrection s'est répandue et a commencé à faire un peu de, de bruit, les autorités auraient dû indiquer le bon tombeau. Si Jésus avait été seulement évanoui en croix, c'est quand même un peu bizarre qu'un type si mal en point ait pu paraître en pleine forme deux jours après le dimanche matin. Donc il y a toutes des discussions qui ont beaucoup occupé les gens au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle sur ce qu'on peut appeler les motifs de crédibilité de la résurrection. Si ça intéresse vos auditeurs, il y a un livre qui est très bien, je trouve, pour ça, c'est très facile à lire, c'est le roman d'Éric Emmanuel Schmitt qui s'appelle L'Évangile selon Pilate. Il y a deux parties. Une première partie qui n'est pas très réussie à mes yeux, c'est une sorte d'autobiographie de Jésus par lui-même. Mais la seconde partie, c'est le personnage de Pilate, donc confronté à cette histoire de résurrection, qui avance tous les oui. arguments pour penser que ça n'est pas vrai, puis qui se trouve plus ou moins obligé d'admettre à un moment qu'il s'est passé quelque chose, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la question de la crédibilité historique de la résurrection. C'est pas celle dont je parle tellement dans mon livre parce que j'ai pas grand chose à ajouter à ce qui a déjà été dit et que, en tout cas, ce dont je suis bien persuadé, que je ne peux pas démontrer que ça s'est vraiment passé.
Des personnes. À un moment, même l'historien doit admettre que.
Voilà. Je pense que ce qui est historique, c'est la foi des chrétiens, des premiers chrétiens en la résurrection. Ça, faut bien qu'il y a des gens qui y ont cru. Je pense que croire que le tombeau était vide et que le Christ s'est relevé de la mort, c'est de l'ordre de l'acte de foi, peut-être du pari existentiel. Alors pour moi, c'est quelque chose qui est de l'ordre du pari, c'est-à-dire que je choisis en un sens de croire que c'est vrai. Et je choisis dans un sens de croire que c'est vrai. Alors ça va choquer les gens parce que les gens ils aiment bien l'image d'une foi désintéressée, pure de tout intérêt, etc. En fait, je choisis de croire que c'est vrai parce que je vis mieux comme ça.
C'est tout à fait honnête.
Fait du bien.
Oui, tout à fait.
Alors évidemment, après on voit arriver Marx, Opium du peuple, etc. Cette idée que la religion, c'est plus ou moins une drogue qu'on prend pour se cacher les aspects difficiles de la vie. Mais moi, en fait, je fais parfois cours sur ce texte de Marx devant des étudiants. Quand je fais cours devant mes étudiants, il y en a statistiquement une bonne partie qui fume du cannabis, qui prennent des trucs, quoi. Et donc, en fait, le texte « Opium du peuple », ça m'amuse parce que je pense qu'au XIXe siècle, c'était tout de suite péjoratif, cette expression. Aujourd'hui, ça, si je dis « la religion, c'est le cannabis du peuple », il y a pas mal de mes étudiants qui
valident.
Oui, tiens, c'est pas mal, la religion.
C'est une bonne idée.
Donc, ça a un peu perdu de son temps polémique, cette affaire-là. Mais moi, j'assume. En fait, vous voyez que quand on va pas bien, on parlait de dépression. Quand on va pas bien, on prend des antidépresseurs. Puis voilà. Face à cette espèce de grande question bien poisseuse, bien collante et bien anxiogène qu'est celle de la mort, là, il y a quelque chose comme qui est de l'ordre d'une bonne nouvelle, un évangile. Et donc moi j'assume, la vie c'est dur et donc je prends des trucs, si vous voulez. Alors je prends quoi? Je prends des cachets évangéliques, apostolique, catholique. je lis et je fais le choix de croire. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai raison? Je pense que personne ne le saura jamais. On peut pas trancher. Je pense que, donc théoriquement, ai-je tort, ai-je raison, j'en sais rien. Je pense existentiellement, de mon point de vue, j'ai raison parce que, alors je dis pas que ça doit être le cas pour tout le monde, il y a peut-être des gens pour qui ça ferait d'autres effets, mais moi, oui, ça me fait du bien. Et donc, je fais ce pari de croire que Jésus a vaincu la mort pour nous.
Alors, voilà. Personne ne le saura jamais. Faisons le pari que vous le saurez. Vous serez mort. Parce que justement, les choses ne vont pas s'arrêter là. La croyance fondamentale.
Alors je le saurai peut-être un jour. À la limite, si je me suis trompé, enfin voilà, il y a trois solutions, il y a deux. C'est exactement les termes du pari de Pascal. J'ai tort. Il n'y a pas de résurrection. Qu'est-ce qui va se passer à ma mort? Je verse dans le néant. Et j'aurais un peu mieux vécu, je pense, que si j'avais pas cru que le Christ était ressuscité. Donc j'ai rien perdu. Je n'ai rien perdu. J'ai raison. C'est jackpot, comme dans le pari de Pascal. Le Seigneur m'accueille au grand festin des noces de l'agneau où je retrouve tous ceux que j'ai aimés et que j'ai perdus, et ça sera drôlement bien. Et ça aussi, c'est une forme. J'ai du mal à comprendre pourquoi Marx y voit un principe de.
D'opium
au sens d'anesthésie. C'est plutôt dynamisant, en fait. Ça m'aide à mieux vivre, ça me réveille. C'est pas pour ça que ça me rend inactif en cette vie. parce que je pense que cette vie est importante et j'ai envie de la vivre pleinement, mais effectivement, ça change assez radicalement la construction globale d'une existence, quoi, vivre dans cette croyance-là.
Et donc, c'est ce que vous avez montré dans votre livre.
Oui, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Alors, je pense que les gens sont un peu pourris, sans le savoir, par ce philosophe qui s'appelle Kant, là, qui dit que dès qu'il y a de l'intérêt, c'est mauvais. Et donc, je suis assez frappé quand je parle par exemple du pari de Pascal avec mes étudiants. Il y a toujours tout de suite des mains qui se lèvent et disent « Ah, mais monsieur, c'est pas une vraie foi parce que c'est une foi intéressée. » Ça, j'ai vraiment. Je préfère, c'est pas un auteur chrétien, mais il me paraît dire des choses beaucoup plus profondes. C'est un auteur comme Spinoza, qui dit qu'en fait, ou même en un sens, Aristote dit des choses comme ça, une action véritablement morale peut très bien être faite par intérêt bien compris. Alors, intérêt bien compris, c'est pas des intérêts immédiats, égoïstes, écraser les autres, etc. Des intérêts rationnellement déterminé, mais on peut très bien agir de façon correcte, de façon intéressée. Alors, et pour moi, dans la compréhension que j'ai du christianisme, un chrétien, c'est quelqu'un de fondamentalement intéressé. Un chrétien, c'est quelqu'un qui organise sa vie de façon à pouvoir un jour parvenir à ce qu'on appelle un peu trivialement le paradis et s'envoyer en l'air pour les siècles des siècles, en fait. Donc je défends ce sens. Je défends ça parce que il y a cette image d'un christianisme qui se réduirait à pleurer, jeûner, souffrir et donc sacrifier cette vie présente et tous ses plaisirs et toutes ses joies pour obtenir la vie d'après. C'est pas du tout mon image du christianisme. Je pense que le christianisme bien compris, c'est au contraire quelque chose qui dynamise la vie présente, qui répond à ce qu'on appelle fondamentalement en philosophie la question de la vie bonne, et qui le fait sur horizon de vie éternelle. Mais il ne s'agit pas du tout de sacrifier cette vie. Je pense que, pour moi en tout cas, la croyance en la résurrection la rend meilleure.
Est-ce que, on arrive à la fin de l'émission, est-ce que vous savez ce qui se passe après? Ou est-ce qu'au fond, il faut laisser ça dans un grand mystère? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut aller chercher ce que c'est que la résurrection? Est-ce qu'on est ressuscité dans un corps, pas dans un corps? Est-ce qu'on est réveillé? Est-ce qu'on est... Ou est-ce qu'au fond, il faut laisser ça pour après?
Alors, je vais vous faire réfléchir un tout petit peu, mais pas trop. Je crois que les bons auteurs appelle quand même à ce qu'on pourrait appeler une forme d'ascèse de l'imagination sur ces questions-là, au sens où on a tous des modèles. Alors moi, j'ai écrit un jour dans un livre, je me suis fait tirer les oreilles par les théologiens, j'avais essayé de construire un concept de résurrection en superposant des modèles. Alors j'avais dit, il y a l'orgasme. Alors évidemment, ça n'a pas plu. C'est la plus grande jouissance qu'on puisse ressentir en cette vie. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est une grande jouissance. Et puis après, j'avais comme deuxième modèle, j'avais parlé du... Alors j'aime bien le football. Quand on est au stade, le stade est plein, puis que votre équipe favorite marque un but, tout le monde se lève. Il y a une espèce de moment d'exultation collective, là. Et donc, le paradis, c'est une expérience collective. Hein, on n'y est pas tout seul. Et donc, c'est une espèce de façon de se réjouir tous ensemble dans la contemplation d'un même objet. Alors là, c'est un peu trivial, c'est le but au paradis, ce sera Dieu, mais c'est pas grave. J'y voyais une sorte d'analogue de ce qui peut être une vie de ressuscité. J'avais rajouté, j'aime bien aller au concert de rock'n'roll quand on se laisse prendre, c'est par ces espèces de pulsations des basses et le corps adopte un rythme euphorique qui lui vient de l'extérieur. Donc ça peut être aussi une forme de vie donnée par Dieu. Mais voilà, tout ça, c'est très approximatif. Donc je pense, non, pas trop. Quoi, une conviction, ce sera l'accomplissement de nos êtres.
Oui.
Voilà. Et un trait, on en a déjà parlé dans une émission précédente, profondément chrétien, il y a une dimension corporelle dans tout ça. C'est pas la résurrection d'un pur esprit.
C'est ça.
Alors, ça c'est un peu la tendance philosophie grecque. Hein. On sépare l'âme et le corps. Vous savez, Platon, dans le Phédon, il meurt, et donc il y a cette idée. Enfin, il est débarrassé de ce corps qui l'empêtrait. C'est le moment de vérité où, débarrassé du corps, Socrate devient vraiment Socrate parce qu'il est une pure âme, etc. Alors, le christianisme, c'est pas ça. Hein. C'est la résurrection des corps. Il y a chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens de Saint Paul qui parle un peu de ça. Donc il y aura une dimension corporelle dans une vie de ressuscité. Ne me demandez pas laquelle, ça j'en sais rien, mais pour moi c'est important parce que ça me dit que mon corps est quelque chose de bien, fondamentalement, qu'il faut que j'en prenne soin, que c'est une dimension essentielle de mon existence. Et ça me semble aussi une des vérités profondes du christianisme. Alors, c'est pas qu'on parle de la résurrection, mais on peut boucler la boucle et puis revenir quand tout a commencé, le christianisme, c'est une religion de l'incarnation. Bon, c'est Dieu oui. qui se fait homme et qui prend une chair. Et donc, je pense qu'on, voilà, on fondamentalement, il y a quelque part dans le christianisme l'idée que le corps est quelque chose de bien. Alors, historiquement parlant, malheureusement.
C'est pas le cas.
Le christianisme n'a pas vraiment assumé cette vérité-là pendant assez longtemps. Mais c'est quand même quelque chose qu'on réhabilite aujourd'hui. Et donc, oui, dans une vie de ressuscité, dans une vie accomplie, il y a une forme de corporéité. Alors, une corporéité sans doute parfaite, supérieure, débarrassée, parce que la corporéité telle que nous l'expérimentons en cette vie, c'est aussi la douleur, la maladie, la souffrance, c'est pas drôle tous les jours, mais une forme de corporéité accomplie. Et là, je fais exactement ce que j'ai dit qu'il ne fallait pas faire. Je vous donne une dernière image.
Puisqu'on arrive à la fin de l'émission.
Une dernière image. Alors, je commence à être vieux et mes performances baissent, mais je pratique depuis longtemps la course à pied. Je crois que les gens qui font des sports d'endurance, la natation, du vélo, connaissent ça aussi. Il y a des moments, ça s'explique par la production d'endorphines, où on arrive à une forme d'euphorie, où corps et esprit sont parfaitement réunis, l'un ensemble, l'un avec l'autre, et où on vit une expérience d'harmonie merveilleuse de la plénitude de son être. Alors, oui. C'est fugace, mais ça arrive fugacement. Il me semble que ça peut donner peut-être une bonne anticipation de ce que peut être une vie de ressuscité.
Merci beaucoup, Denis Moreau. Je rappelle le titre de votre livre, Résurrection, au pluriel, Traverser les nuits de nos vies, c'est paru aux éditions du Seuil. Un tout grand merci.
Merci beaucoup, au revoir.
Merci de nous avoir suivis, et à la semaine prochaine.
C'était Église d'aujourd'hui, une émission de Régis Burnet que vous pouvez retrouver en podcast sur le site internet rmc.fr.